Pour cette première partie sur R, donc je détaille un petit peu ce que c'est R, mais rapidement. Hein. Donc R, c'est un logiciel libre qui est sous licence GPL, donc, qui a vu le jour en 1993. Et donc son développement, il est assuré par toute une communauté qui est coordonnée par le CRAN, donc c'est le Comprehensive R Archive Network. Donc c'est un board d'initiés qui coordonne le développement de R. Donc le CRAN, lui, il a eu le naissance en 97. C'est un peu l'époque où il y avait aussi le CEPAN pour Perl, ou bien le CETAN pour Tech. C'est un peu cette époque-là où il y a des communautés qui se montent autour de technologies, autour de logiciels. Et voilà. Donc j'insiste ici sur le fait que R est un logiciel. Donc c'est non seulement un logiciel, mais c'est aussi un langage de programmation. Donc c'est un objet un peu à deux têtes, R, avec donc cet aspect langage de programmation, et c'est un langage qui est dédié aux statistiques. Dans ses fondements, l'objectif de R, c'est de faire des statistiques, et c'est pour ça qu'on peut avoir parfois des se demander pourquoi certaines choses se passent ainsi dans R, et c'est ce qui fait aussi sa particularité, c'est qu'il est dédié aux statistiques. Donc, le succès de R, à mon sens, repose sur sa communauté, c'est-à-dire qu'il y a une grande communauté d'utilisateurs. Il faut savoir que R, il succède à S. Alors peut-être que je dis des bêtises, hein, donc il faut m'arrêter parfois, mais il succède à S, et S, c'était pas un logiciel communautaire, c'était un logiciel qui était fermé, avec un modèle économique payant, mais c'était un très bon logiciel, mais disons que son modèle n'a pas permis son essor, et c'est sa réimplémentation sous licence GPL qui a permis son essor, et l'essor de sa communauté, et c'est ce qui fait son succès. Donc, j'avais déjà fait cette présentation pour l'Action nationale de formation des sciences ouvertes. Là, je l'ai étoffée un peu parce que j'ai plus de temps, et puis on va revoir un petit peu ce que c'est que ce langage là dédié aux statistiques. Donc voilà. Donc en R, par exemple, on peut faire ce genre de choses. On peut faire A flèche, hein, donc ça c'est l'affectation. Donc c'est un peu particulier. Effectivement, on peut faire l'affectation avec une flèche. Après, pourquoi pas, hein, on peut voir, hein, ça c'est quelque chose qui fonctionne. Donc si je lance R, donc là c'est R le logiciel, et là c'est R le langage. Voilà, du coup A vaut 1. On peut faire l'affectation avec une flèche. Pourquoi pas? Il y a des langages qui définissent des blocs de code par l'indentation. Tout est possible, quoi. Voilà. Donc avec R, on peut aussi faire ce genre de choses. On peut faire des blocs, des structures de contrôle. On peut regarder si A est plus petit que 1. Et voilà, si j'exécute ça, est-ce que A est plus petit que 1 et plus petit que moins 1? Et ben, on paraît que oui. Mais en fait, donc R, il fait aussi des blagues. Parce qu'en fait, là, cette
Voilà.
affectation avec une flèche, c'est pas A est plus petit que moins 1, mais c'est l'affectation A prend 1. Du coup, on peut avoir des comportements comme. Donc R, c'est aussi une farce un peu, des fois quand même. Voilà, donc ça, c'est les petites anecdotes. Alors après, cette affectation-là, on peut faire ça aussi. On peut dire que A prend 1, mais dans l'autre sens. C'est pas banal. Et puis, c'est sûrement utile dans certains cas, mais c'est pas banal, quoi. Mais outre l'affectation, hein, de ce langage, il y a quand même des éléments assez caractéristiques dans R, et qui font donc le fait que ce soit un langage destiné à la programmation statistique, et notamment, alors c'est pareil, ça n'engage que moi, mais je trouve ce qui est assez fondamental dans R, outre l'affectation par la flèche, c'est la manipulation des data frames. Donc là, bon, c'est un code un peu abscon au début, mais je construis une data frame, et quand on regarde cette data frame, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tableau à deux dimensions avec des colonnes qui sont nommées. Et voilà, donc là, je vois les quatre premières lignes. Donc ça, c'est assez fondamental, je trouve, dans R, parce que c'est sur ce genre de tableau qu'on va pouvoir manipuler, construire nos modèles, faire des statistiques. Et donc, ce genre de tableau, en fait, c'est ce qu'on retrouve dans un tableur. Ce sont des colonnes plutôt homogènes, quoi, donc plutôt des facteurs ou des cofacteurs. Et puis, on a pour chaque ligne des observations. Donc, c'est ce genre de données, souvent, qu'on manipule quand on fait des statistiques. Et c'est ce genre de données, enfin, c'est ce format aussi qui a été repris dans Panda, donc un Panda, la bibliothèque Python, qui permet de aussi faire des statistiques ou des data science. Mais donc, c'est un élément assez fondamental sur le fait de pouvoir faire des statistiques. Donc là, sur cette data frame, on peut demander sa dimension. Donc, c'est une dimension, elle fait 100 lignes, 3 colonnes. Elle est de classe data frame. Et on peut voir que l'implémentation du data frame, finalement, c'est une liste. Donc, une data frame, c'est une liste de colonnes. Et chaque colonne, c'est un vecteur. Donc, c'est un vecteur qui est homogène. Ici, là, on a notre troisième colonne qui est un facteur. Donc, le facteur, c'est aussi un élément qui est assez fondamental, je trouve, dans R. C'est qu'on pourrait avoir des chaînes de caractères pour définir des individus de type A ou B. Mais le fait de les définir comme facteurs, je trouve que c'est très important. Et ça permet, par exemple, de dire, bah, finalement, ma colonne, c'est A ou B, c'est pas C, c'est pas une chaîne de caractères. Et d'ailleurs, dans R, cette colonne, elle est codée comme étant un entier. Donc, ici, on retrouve un type énuméré, finalement. C'est un entier qui est adossé à un dictionnaire A et B, et on a ces éléments-là. Donc, ça, c'est le data frame et les facteurs, c'est, selon moi, un élément assez fondamental dans R et dans la programmation statistique. Et ça va permettre de faire ce genre de choses. Ici, je définis avec LM un modèle linéaire qui prend en entrée cet objet-là. Donc, cet objet R, c'est un élément du langage. C'est une formule A. Donc, c'est un peu en ça, je pense, que R est un domaine spécifique language et on va pouvoir exprimer avec R dans le langage des modèles statistiques. Ça, c'est pas une chaîne de caractères, c'est pas entre guillemets, c'est vraiment le modèle tel qu'on l'exprime. Et la fonction LM, elle est en mesure d'interpréter une formule et de l'appliquer sur une data frame. Donc, elle est en mesure ici de régresser la variable Y en fonction des variables X1 et X2. Donc, cette notion de formule, je la trouve aussi fondamentale dans R. Un autre élément qui est aussi fondamental dans R. Donc R, il y a des structures de contrôle. On a vu qu'il y avait une structure de contrôle if et des structures de contrôle for. Mais on a aussi dans R, on a une fonction, la fonction apply, qui redéfinit la structure de contrôle for et qui l'optimise et qui la rend plus efficace sur des matrices. Alors bon, il y a quelques erreurs là, mais en gros, sur ce bloc de code là, je définis une matrice et avec le for ici, j'itère entre 1 et puis le nombre de lignes de la matrice, et pour chaque ligne de la matrice, je calcule la moyenne de la ligne de la matrice et je stocke cette moyenne dans le résultat que j'ai défini au préalable. Et on peut faire exactement ce même bloc de code, mais avec la fonction apply. Donc là, je l'ai mis sur df, mais c'est une erreur. En fait, ici, il faudrait mettre mat. Donc, j'applique à la matrice, donc sur la marginale 1, donc c'est-à-dire sur les lignes, une fonction qui va prendre en paramètre x, à savoir la ligne de la matrice. Et sur cette ligne de la matrice, je réalise une moyenne. Et donc, la fonction apply, elle va donc dérouler la boucle et stocker le résultat dans res, exactement comme on l'aurait fait avec ce premier. Et donc, on peut comme ça définir une fonction, prendre des paramètres et puis manipuler ces paramètres dans la fonction. Mais on peut aussi, étant donné que là, on fait juste une moyenne de x, on peut passer en paramètre la fonction, ça fait exactement le même résultat. Donc, on peut ainsi faire des blocs R, des blocs forts, pardon, ou bien faire des apply, ça donne la même chose, quoi. Ça, ce sera plus efficace dans le cas, dans cet exemple-là, parce qu'ici, à chaque pas dans la boucle for, on va réaffecter une nouvelle variable res en concaténant. Et si cette boucle elle est vraiment très longue, on va voir que la boucle, au fur et à mesure de l'avancement, elle va ralentir. Alors que le apply, lui, le fera dans, il le fera de, il n'y aura pas ce phénomène de ralentissement. Voilà pour quelques exemples autour du langage R. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que R, c'est un logiciel libre et un langage de programmation, et que son succès il repose sur sa communauté. Et ce qui a contribué à l'essor de la communauté, c'est la licence GPL du logiciel. OK, mais il y a un autre élément marquant dans R qui a contribué à l'essor du langage et du logiciel, c'est le fait qu'il repose sur un mécanisme de package. Donc, je vais détailler un peu plus ce mécanisme de package. Pareil, n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous avez des questions ou si ce que je dis n'est pas clair. Mais donc, quand on regarde sur Wikipédia ce qui est un package R, donc les packages R, sont des extensions du langage de programmation statistique R. Le package R, il contient du code, des données et de la documentation dans un format standardisé. Donc ça, déjà, c'est important. Là, on voit qu'on commence déjà à toucher les mêmes notions qui sont abordées en sciences ouvertes. En sciences ouvertes, on parle des données, on parle du code aussi, on parle de documentation. Donc on voit que l'objet package de R peut avoir un rôle à jouer dans cet élan de la science ouverte. Donc les packages R peuvent être installés par les utilisateurs depuis des dépôts centralisés comme le CRAN. Donc le CRAN, il organise, il s'assure que les packages qui sont déposés sur le CRAN suivent l'évolution des versions de R et restent compatibles les uns avec les autres. Mais on peut aussi déposer des packages ailleurs que sur le CRAN, de manière centralisée, mais ailleurs, sur Bioconductor, par exemple, pour mon domaine en biologie, sur d'autres domaines, il y a d'autres dépôts que je ne connais pas forcément. Ou alors on peut les déposer aussi de manière décentralisée, sur de nombreux dépôts Git ou autres qui sont disponibles sur le web. Et donc c'est ce grand nombre de packages aussi qui a contribué à l'essor du langage et de la communauté, parce qu'effectivement, en partageant les packages et les méthodes qui sont déjà implémentées, eh bien, la communauté elle peut s'appuyer sur des outils qui sont vérifiés par la communauté, qui marchent de mieux en mieux à chaque fois que les gens corrigent des bugs et pointent éventuellement des erreurs. Et donc, c'est également un élément qui a permis de contribuer à l'essor du langage. Donc, si on reprend un petit peu les avantages du package R, et bien le package R, et ce qu'il définit, c'est qu'il embarque des métadonnées dans sa conception, quoi. Donc, c'est un fichier description à l'intérieur duquel on va retrouver, et de manière obligatoire, un titre, un auteur et une licence. Donc c'est aussi une bonne pratique de la science ouverte, c'est de, si on produit des codes de recherche, et ben c'est de tout de suite les adosser à une licence pour leur donner un statut. Et donc le package R, par essence, de manière obligatoire, il inclut le fait de se poser la question de la licence, quoi. Un autre avantage du package R, c'est qu'il organise l'espace de travail. Effectivement, dans un package R, on va le voir après sur un exemple, et ben, il y a un dossier R à l'intérieur duquel on va trouver des fonctions, on va trouver voilà, des fonctions. Il y a un dossier vignette à l'intérieur duquel on va trouver des vignettes, donc des fichiers éventuellement en Markdown ou en Swift, mais des fichiers qui vont documenter les méthodes, qui vont les mettre en œuvre. Et on retrouve un dossier data à l'intérieur duquel on peut embarquer des données dans le package. Donc le package R, il organise l'espace de travail. Et souvent, on voit que Quand on débute, hein, on ne sait pas trop où sont nos données, où sont les codes, comment est-ce qu'on s'organise, comment est-ce que cette organisation, elle perdure dans le temps et comment est-ce qu'elle est transmissible d'une personne à l'autre, et comment est-ce qu'on la communique à nos communautés de recherche. Et ben, le package R, lui, il a cet avantage-là, c'est qu'il structure, par essence aussi, il structure un environnement de travail. Le package R, il permet aussi de vérifier la qualité du code et la documentation avec des procédures internes, avec des fonctions. Donc, on peut faire un check d'un package pour voir si les fonctions sont bien écrites, si les arguments qui sont pris en entrée d'une fonction sont bien documentés. C'est-à-dire que si ce n'est pas le cas, et bien ça peut lever des warnings ou bien des notes. Donc, on peut améliorer la qualité de notre code juste en le structurant ainsi et en utilisant ces méthodes. On peut aussi construire la documentation. Donc, une fois qu'on a documenté nos fonctions, des procédures permettent d'écrire la documentation et donc d'organiser le package comme ça. Il va également aussi vérifier qu'on n'a pas des grosses erreurs dans notre code. C'est-à-dire que si on utilise une variable qui a été déclarée nulle part, on peut avoir un code qui tourne, hein, qui utilise une variable globale. Ça arrive souvent, en fait, c'est pratique. Mais c'est aussi l'occasion ça occasionne aussi beaucoup de bugs et beaucoup d'effets de bord indésirables. Et ben les procédures de contrôle, elles vont lever des erreurs et elles vont pointer ces erreurs qui sont parfois pas volontaires et puis surtout qui nuisent à la qualité du code, à la reproductibilité et à la fiabilité des produits qui sont des résultats qui sont proposés. Donc le package R, il propose aussi des mécanismes de test. Donc il y a un package TechZAD qui fait ça, mais il y a plusieurs packages qui font ça, donc qui permettent, quand on définit une fonction, par exemple, de tester que cette fonction, elle fait bien ce qui est attendu. Donc, des mécanismes de test unitaires. Elle propose aussi, dans les fonctions, de décrire des exemples d'utilisation du code. Et au moment de la compilation du package ou au moment des procédures de contrôle, ces exemples sont exécutés. Donc, c'est aussi un endroit où on peut faire des tests. Directement, quand on écrit une fonction, la doc, l'exemple, et ben on peut en même temps écrire le test au même endroit, et c'est assez pratique. Donc les notions de test, c'est pareil, c'est une notion qui est assez intéressante puis qui a longtemps été rabattue, quoi, notamment dans les années 90, sur les notions d'intégration continue et de développement agile, voilà. De développement orienté par les tests. Je pense à l'extreme programming ou ce genre de choses, quoi. Donc, c'est des concepts qui sont directement intégrés dans le package. En tout cas, c'est des outils qui permettent de faire de l'extreme programming et de développement agile et du développement dirigé par les tests directement dans le design et dans la conception du package. Donc c'est un outil donc très très intéressant, le package. Et puis ça permet de partager son code, donc comme on l'a dit, sur le cran, sur le conducteur ou bien sur un dépôt comme GitHub. Donc grosse promotion quand même pour le package R, c'est quand même un super super outil. Qui permettent de promouvoir des méthodes. Donc, il permet de promouvoir des méthodes, c'est son rôle initial, mais selon moi, ça fait un petit moment que je commence à promouvoir ce concept, quoi. Je pense que le package R, c'est aussi un cadre formel qui permet donc de définir une analyse statistique ou le développement d'un modèle ou d'une étude statistique. Donc, ce que je veux dire, c'est que certes, avec le package R, on peut créer une nouvelle méthode ou utiliser une méthode existante, la documenter, la promouvoir, après l'insérer dans différentes études et la réutiliser. Mais on peut aussi envisager le package R comme un cadre formel d'une analyse. On peut l'envisager comme un environnement de travail dans lequel on va développer nos hypothèses et puis les documenter dans des vignettes et puis y accoler des fonctions qu'on va pouvoir réutiliser, mettre des méthodes dedans et ce genre de choses. Et ça, c'est pas banal. Alors, bon, c'est pas banal, mais il y a des gens qui ont pensé quand même, et ça m'a conforté aussi dans cette idée, quoi, notamment une présentation de Valérie Orozco, qui, elle, je ne crois pas qu'elle conçoive le package Air dans sa présentation comme un environnement d'espace requis, mais elle formalise beaucoup de choses sur la reproductibilité des codes et des études qui vont dans ce sens. Et donc c'est un talk qui est très intéressant. Vous pouvez retrouver la vidéo ici, quoi. Et il y a également Juliette, donc, qui était au séminaire russe ici l'année dernière, quoi, qui, elle, alors, pour le coup, elle formalise complètement le package Air comme un environnement de travail et très structurant. Donc elle organise en tout cas ses enquêtes et ses services autour d'une méthode, la méthode propre. Ah oui, c'est ça, très adresse. Et donc, elle organise son service et ses équipes et des agences autour de la méthode propre qui, elle, repose sur ce concept-là de package. Donc, elle a poussé ce concept du package comme un cadre formel dans lequel on peut instancier des études. Pareil, la vidéo, elle est disponible sur le. Là, c'est sur le. Ouais. C'est une vidéo qui est sur les séminaires russes aussi, qui est disponible. Donc voilà, donc le package Air, l'employé du mois, quoi. Tout de suite, un exemple de package Air. Donc c'est un package un peu joué que j'ai fait pour illustrer un peu ces concepts-là et pour dans le cadre de mes enseignements. Donc c'est un package que j'ai appelé proto-package. Donc, ce package-là, il veut être un peu un prototype. C'est-à-dire que je peux le prendre et puis le cloner pour faire une nouvelle étude ou un nouveau package. En tout cas, il illustre bien les différents concepts. Donc, on retrouve ici le dossier R, dans lequel on va avoir des fonctions et puis là, des fonctions qui permettent de générer les données du package. Voilà, c'est une arborescence, hein. C'est pas, faut pas non plus s'en faire un monde, hein. C'est complètement accessible à n'importe quel débutant qui a un ordinateur, en fait, et une structure de fichiers. Et donc, c'est une arborescence, quoi. Donc, dans Data, on va retrouver nos données. Ici, c'est des données jouées, hein, qui ont pas plus de sens que ça, quoi. Et puis, on retrouve le fichier description. Alors, le fichier description, à l'intérieur il est formalisé, on retrouve le nom du package, une brève description, des auteurs, ce que je disais, une licence et quelques éléments en plus des dépendances, ce genre de choses. On retrouve un fichier licence. Alors, je crois pas qu'il soit obligatoire, mais il y en a un là. On retrouve un fichier README, pareil, il n'est pas obligatoire, mais ça, c'est pour le dépôt. On retrouve surtout un dossier vignette à l'intérieur duquel on peut décrire un peu nos procédures en markdown, donc et mêlé à la fois du texte, hein, c'est la programmation lettrée, et avec des titres, une organisation en section, en sous-section, et puis on mêle aussi du code dans lequel on va pouvoir appeler ici les données du package et puis ici des fonctions du package et afficher des résultats, ce genre de choses. Voilà. Voilà. Donc sur ce package, proto package là, il y a, en gros, j'ai mis ici les commandes qui me servent et qui peuvent servir du coup aux gens qui voudraient s'y mettre. Donc, on compile le package de la manière suivante avec un outil qui s'appelle DevTools. Ça permet donc de le compiler et de l'installer. On le clone de cette manière-là. Ici, on génère la documentation, l'installation. Voilà, c'est un petit peu des notes pour démarrer avec un package. Après, ce package-là, on instancie ce qu'on veut. On peut faire une nouvelle méthode, on peut faire une nouvelle étude, on peut écrire un guide, on peut en faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et c'est l'avantage. Donc ça, c'est le package qui va nous servir pour la démo du dépôt d'un package.